RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les grandes gueules sont à Marseille depuis 9h ce matin au Palais de la Bourse. Première étape de notre tournée spéciale municipale. On est à moins d'un mois du premier tour des municipales. On vient d'en parler d'ailleurs avec le directeur de la Provence parce qu'à Marseille, il y a de l'enjeu. Hein. On ne sait pas qui va gagner. Le RN est en embuscade. On vient d'en parler et on fera aussi comme ça le point sur ces municipales dans les grandes villes. On sera notamment à Lyon la semaine prochaine parce que là aussi à Lyon, ça peut bouger avec une percée inattendue de Jean-Michel Aulas. Bref, les municipales au cœur des grandes gueules, et les grandes gueules sont à Marseille. Il y a du soleil, même si on est à l'intérieur, mais on le voit, le soleil, il est pas loin de nous, il nous tend les bras, nous qui subissons la pluie à Paris depuis des semaines, voire des mois, peut-être même des années.
Oh.
Mais si, quand même, moi j'ai l'impression que c'est...
Ça fait
10 ans qu'il pleut à Paris. Oh. Bon, Antoine Hiers, le Dunkerquois, est
là,
à Marseille.
Pleut.
Avec lui, ouais, il a l'habitude, Abel Boyer, l'éducateur, et Laura Varton Martinez. Tout à l'heure, ce sont vous, chers Marseillais, qui aurez la parole. On va vous inviter à la table des grandes gueules pour venir discuter directement avec nos GG. Donc n'hésitez pas à vous déclarer auprès d'Anaïs Innocents pour venir tout à l'heure discuter quelques minutes avant la fin de l'émission. Mais pour l'heure, nous allons continuer d'évoquer l'actualité et notamment justement les conditions météo. Une nouvelle tempête traverse la France, la tempête Pedro, la tempête de trop. Vous savez qu'il pleut depuis 37 jours non-stop. C'est un record. 37 jours de pluie. Alors, pas partout. Je sais qu'à Marseille, vous allez me dire, il y a un climat particulier.
Pas non-stop. Il pleut pas toute la journée. Mais il a plu tous les jours.
Il a plu tous les jours en France depuis 37 jours. La tempête Pedro arrive avec, bien sûr, son lot de pluie, de vent sur des sols qui sont déjà fragilisés, inondés. Angers, la ville d'Angers, est en train de vivre une crue historique et on a une pensée pour nos amis du Maine-et-Loire, c'est l'un des départements les plus touchés. La Garonne déborde du côté de Libourne. Il y a une crue inédite à Bordeaux. Bref, c'est quand même l'enfer. Des gens qui ont les pieds dans l'eau, qui sont en train parfois de tout perdre. On évalue déjà à 1 milliard d'euros les dégâts de ces tempêtes à répétition de cet hiver pourri. Est-ce que ça vous inquiète? Parce que les spécialistes nous disent qu'avec le dérèglement climatique, malheureusement, ça va se reproduire. Il y a un Français sur quatre qui vit en zone inondable. Mmh. Est-ce qu'il va falloir faire déménager les gens, par exemple? C'est une question qui va se poser.
Là, il va falloir du courage politique, parce que c'est vrai que les écolos nous avaient prévenus depuis longtemps. Je parle des vrais écolos, pas des radicaux, bien entendu. Et pendant longtemps, on s'est moqué d'eux. C'était un petit peu ces gens aux cheveux crasseux qui fumaient du shit et qui venaient nous embêter dans notre quotidien tranquille. Mais la réalité, c'est qu'on est prévenus et il faut du courage politique. Il va falloir dire à des gens de déménager, il va falloir les accompagner et il va falloir repenser l'aménagement du territoire en réalité. Parce que ces épisodes, surtout qui sont très instables, c'est-à-dire ça peut arriver en hiver, au printemps, en été, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et on ne peut pas rester à continuer à subir. Il y a des morts aussi, des fois, de temps en temps. C'est extrêmement compliqué. Donc oui, il faut repenser l'aménagement du territoire en France et colmater les erreurs du passé, parce que on a donné des permis de construire à tire-larigot, en s'en fichant totalement de l'aspect sécuritaire.
Après, les gens, quand ils achètent ou quand ils font construire, ils le font en connaissance de cause.
Bien entendu.
Parfois moins cher aussi. Et puis il y a toujours une volonté d'être pas loin d'une rivière,
oui,
au bord de
mais
mer.
Quand tu as un coup de foudre pour un terrain, tu penses pas à ça forcément.
Non, tu penses que tu t'en sortiras.
Voilà, exactement.
C'est le PLU qui doit être fait correctement de base.
Exactement. Donc il faut un accompagnement et il faut repenser tout cela, parce que sinon on va en perdre encore du
Antoine
monde.
Antoine Dias,
les questions de gestion des milieux aquatiques, les questions d'hydrographie sont des sujets complexes. Moi, je vis à Dunkerque. Dunkerque, il faut bien imaginer que c'est un territoire quasiment entièrement gagné sur la mer. C'était des marais jusqu'à les années 1500. Et l'homme, par sa capacité à établir des digues, drainer les sols, il y a le canal exutoire chez nous qui, avec chaque marée, retire l'eau de l'intérieur des terres. L'homme est en mesure de gérer l'eau. ça demande beaucoup de technicité, beaucoup d'argent, des investissements dans les digues, de l'entretien des canaux. Et on a oublié toute cette technicité ces dernières années. On a arrêté d'entretenir nos canaux, de mettre de l'argent dans l'entretien de nos digues, etc. Et on se réveille un peu tard. Il y a effectivement un effet réchauffement climatique, il y a un effet climatique, mais on ne peut pas le mettre que sur ce plan-là. L'homme a partout, au travers des siècles, façonner ces espaces, drainer des terrains. La forêt des Landes, c'était un marais immense. Aujourd'hui, on nous dit, ah, belle forêt, mais c'est l'homme qui a planté cette forêt pour assécher un marais. Et donc, il faut absolument qu'on reprenne en main la façon de gérer les eaux, qu'on se remette dans des plans d'aménagement du territoire, s'il faut refaire des digues, s'il faut redrainer, réassécher.
Ouais, maintenant, à beau faire des digues, il y a des endroits qui seront inondés quasiment chaque année.
Ben, peut-être. Et donc, ceux-là, oui, on fera déménager les gens. Mais il y a plein d'endroits qu'on peut préserver juste par de l'ingénierie, du travail et de l'investissement. Et ça, tout le monde l'oublie. Tout le monde est face à la nature et pense que c'est la fatalité. Ah, ben, il va falloir partir. Non, l'homme a façonné les sols, façonné la terre, et l'homme fait face aux aléas climatiques depuis toujours.
Laura D'Arto-Martinez.
Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais on peut pas mettre ça uniquement sur l'écologie. Il y a quand même des choses qui ont arrêté d'être faites, comme je vais pas répéter ce que vient de dire Antoine. Je pense aussi aux rivières qui étaient nettoyées par les agriculteurs, que les écologistes ont interdit de faire parce que ça tuait la petite grenouille ou je ne sais guère. Mais il y a aussi autre chose. Il y a eu un développement des PLU qui a été monstrueux. Donc des fois même des maisons qui n'étaient pas forcément en risque d'inondation, des PLU qui ont été étendues pour accroître une agglomération, a fait que des maisons sont devenues en zone inondable. Il y a eu quand même pas mal de PLU de complaisance, c'est-à-dire de l'argent pour une campagne si tu m'octroies le PLU pour que je puisse mettre mon supermarché. Il y a eu tout. Donc la responsabilité, elle est à tout à chacun. Oui, on doit remettre de la technicité dans la prévention pour éviter que ça arrive. On doit réentretenir toutes nos zones
naturelles,
aquatiques. On doit redonner le pouvoir à nos paysans de s'occuper correctement des forêts. On doit aussi également faire en sorte que les forêts doivent être de nouveau entretenues correctement, recréer des réels domaines forestiers. Et on doit peut-être vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau des PLU octroyés par la mairie ou par les préfets.
Ouais. Et en même temps, tu as une pression au logement. Et en même temps,
il faut bien loger les Français.
Le problème des PLU maintenant, c'est qu'on centralise tout et tu l'étales un peu plus. C'est-à-dire que tu ne fais pas des blocs urbains qui viennent tout détruire
C'est tout le contraire. Au contraire, moi je pense qu'il faudrait accepter de monter en hauteur dans les villes, d'avoir des vraies hauteurs. Dès que tu as une ville moyenne,
c'est sûr que par exemple, quand tu as une maison à deux étages, c'est plus simple de se protéger des inondations.
Non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il faut aussi éviter l'étalement urbain qui fait qu'on a été construire le pavillon supplémentaire au bout du village près de la rivière.
Je me suis peut-être mal exprimé. C'est justement de continuer à étendre autour de la ville.
Ça, il faut plus le faire.
On dit exactement la même chose.
Mais donc donner des droits aux gens pour construire plus haut. En France, on a un problème avec l'urbanisme haut. On va faire une tour, c'est honteux. Mais non, au contraire, la tour, si on fait une tour en ville, c'est pour protéger nos espaces naturels.
Parce que certains vont dire c'est moche les tours.
Ah oui, mais non.
Moche, tu préfères que ce soit moche ou de perdre ta maison.
Il vaut mieux faire de l'urbain plus haut, des semi-collectifs, etc., que de devoir aller construire le pavillon à côté de la rivière qui sera inondé.
Voilà. Parce que c'est un coût, je disais, 1 milliard d'euros, c'est une première estimation. Je pense que ça sera beaucoup plus des dégâts causés par ce que nous vivons. Et il y a des morts, même si il faut reconnaître qu'il y a sans doute moins de morts que les années précédentes, parce qu'il y a quand même aussi de la prévention plus forte. On reçoit des alertes.
Oui, mais la prévention,
les prévisions météo sont de plus en plus précises.
Gens font plus attention, mais tu regardes, on en a parlé la semaine dernière, les poteaux électriques qui s'effondrent sur les maisons. Pardon, mais quand tu sais que tu es dans une zone où il va y avoir des. Qui est à risque de tempête ou d'inondation, tu peux lester les poteaux pour éviter qu'ils s'effondrent sur les maisons.
Si vous êtes en train de vivre ces inondations, les pieds dans l'eau et toutes les conséquences désagréables, appelez-nous au 3216 pour nous raconter ce que vous vivez, notamment du côté de la Gironde, très touché, du Maine-et-Loire, ce département, la ville d'Angers, qui est en train de vivre une crue historique. Et en fait, c'est désespérant parce que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que, alors, a priori, à partir de ce week-end, il y a moins de pluie, mais enfin, c'est semaine après semaine, il y a des habitants qui subissent ça. Nous sommes justement avec Julien, qui est du côté de l'Hérault. Bonjour, Julien.
Bonjour, Julien.
Julien en direct dans les grandes gueules, en direct de Marseille. Julien, artisan peintre, vous êtes du côté de l'Hérault. Vous êtes touché par ces inondations en ce moment ?
Non, on n'est pas touché par ces inondations. On l'a été il y a quelques années. Là, effectivement, bon, il a quand même beaucoup plu pour la région. Mais on n'a pas été tellement inondé une fois, je crois. Mais c'était pas non plus, c'était pas pharaonique.
Terrible. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez dire en fait par rapport à notre débat?
Ben, c'était surtout en fait par rapport au cours d'eau. Un des intervenants en a parlé. Maintenant, on peut plus nettoyer les cours d'eau principalement, ce qui fait qu'en fait, ils rétrécissent et forcément, quand il y a des grosses pluies comme ça, les niveaux montent. Avant, on nettoyait les cours d'eau, on coupait les arbres morts, on enlevait le surplus de sable, de gravats, de pierres qui les encombraient, ce qui fait que l'eau pouvait circuler. Ben, c'est les écolos. C'est les écolos, tout simplement. On peut plus essayer de descendre avec une pelle dans une rivière ou quoi que ce soit pour couper un arbre. On se fait presque traiter d'assassin. Donc, nous, on a eu le cas il y a quelques années sur une ville à côté de chez moi qui s'appelle Valorogue, où il y a eu, c'est de mémoire, en 2016, je crois, ou 2017, il y a eu une énorme inondation. Et en fait, ils se sont aperçus après que ça venait en partie de là. Bon, il était tombé quelque chose de sérieux. Alors, quand même.
Il y a ça aussi, mais enfin, il y a aussi la bétonisation, c'est-à-dire qu'on a aussi, voilà, c'est l'urbanisme,
permis à
et des sols qui laissent plus passer l'eau. Bon, c'est compliqué.
Oui, maintenant, ils commencent à y revenir, parce que dès qu'on veut bétoniser quelque part, il faut débétoniser ailleurs la même surface. Mais le problème, c'est que c'est trop tard. Il faudrait rendre les sols beaucoup plus perméables que ceux qui sont. Et maintenant, avec effectivement l'urbanisation, les villes qui s'étendent au fur et à mesure, c'est devenu maintenant, on est pris dans le système est comme ça. Pour revenir en arrière au niveau où il faudrait, c'est compliqué. Donc faire des digues et tout, oui, c'est bien, c'est une idée, mais c'est pas ce qui va, c'est pas une solution pérenne, quoi, on va dire.
Il y a les digues et puis il y a des zones dont on accepte qu'elles soient inondables. C'est-à-dire que toute la gestion d'un bassin hydrographique, c'est de dire que si jamais on devait faire face à une crue exceptionnelle, on sacrifie tel champ où il n'y a pas d'habitation et l'eau va être orientée vers cet endroit. C'est aussi être en mesure d'orienter l'endroit qu'on va inonder plutôt que d'inonder un espace urbain. Donc la digue ne règle pas tout, mais elle permet de gérer les flux d'eau.
Merci Julien, merci d'avoir appelé au 3216. Il faudrait quand même pas à chaque fois taper sur les écolos qui seraient responsables de toutes ces inondations,
c'est un peu plus facile.
C'est quand même pas la faute des écolos.
Mais surtout, il y a un truc, c'est que le temps en fait que l'on perd à essayer de rattraper le retard parce qu'on est débordé par les inondations, c'est du temps aussi que l'on ne prend pas pour réfléchir à comment récupérer cette eau peut-être pour des temps de sécheresse qui peuvent arriver.
Ça, c'est le débat sur les méga-bassines.
Voilà, attention, Abel.
Bah oui, mais en réalité, il faut tout remettre sur la table.
Alors, en ce moment, on pourrait stocker de l'eau. Là.
Mais bien entendu.
Et donc, c'est fascinant. C'est-à-dire que les écolos qui se plaignent de ça vont interdire de faire une méga-bassine. Alors même que tout ça se tient. Il faut juste accepter que l'homme participe à la gestion de la nature.
Exactement.
Oui, non, c'est vrai que là, les méga-bassines, elles seraient vite remplies. Jérémy est avec nous du côté de Bordeaux. Et Bordeaux, c'est une des villes touchées par ces crues exceptionnelles. Racontez-nous, Jérémy, comment ça se passe à Bordeaux. Bonjour, bienvenue à vous.
Bonjour. Écoutez, bonjour, c'est compliqué. Jérémy. Moi, je suis livreur, donc forcément, on voit le retour terrain en live. Et là, par exemple, tout le quartier Bastide, il y a une bonne partie qui est inondée. Donc déjà, ça, on ne peut pas y accéder. Donc même pour travailler, c'est compliqué, quoi.
Ah oui, vous ne pouvez pas vous déplacer ou alors avoir un bateau, mais...
Ouais, on livre pas encore en bateau. Hein. Nous, on fait de la livraison à vélo, d'ailleurs, on n'est pas en voiture. Donc, il y a une partie de Bordeaux qui est accessible dans le centre, mais par contre, l'autre côté, non. Et du coup, hier, on a coupé le service parce que c'était compliqué. Même les rafales.
Hein. Vous aviez déjà vécu ça, Jérémy, à Bordeaux?
Bah oui, il y a eu la tempête. Alors, désolé, je me rappelle plus du nom, il n'y a pas longtemps, là, où il y a eu des sacrées rafales aussi. Et on s'est retrouvé un peu. La Garonne n'avait pas débordé, mais c'était quand même dangereux. Et là, là, c'est vrai que du coup, c'est un peu déprimant, quoi.
Et aujourd'hui, il pleut encore à Bordeaux?
Oui, par vagues. C'est des vagues assez intenses. Ah ouais. Là, de ce que je vois, non. Je suis rentré justement me changer parce que j'étais déjà trempé. Malgré l'équipement, au final, on subit de plein fouet la météo. Après, on a l'habitude, ça fait un mois qu'il pleut quasiment non-stop. Mais, et donc, je suis rentré me changer et là, on va ressortir à la guerre, quoi.
Ah oui. Donc ça paralyse quand même une partie de la vie économique, quoi, de la ville. Puis ça dure, surtout ça, le problème, Jérémy. Bon courage à vous.
Je vous en prie, merci.
Bon courage à vous du côté de Bordeaux, où on est obligé de livrer sous l'eau, quasiment à vélo, pour pouvoir continuer à bosser.
Oui,
mais c'est pas mal parce qu'on est quand même à 3 semaines des municipales. Ça va être un enjeu, ça. Il faut aussi que les gens aillent voir leur maire, interrogent qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les décisions à prendre. Parce que là, tout le monde est catastrophé. Et puis bon, l'eau va partir, on va passer à autre chose et ça va recommencer.
On n'est pas dans l'anticipation, on subit une situation et on est dans la réaction. Comment faire pour qu'il n'y ait pas la situation de trop, parce que les Français, ça fait partie des sujets qui vont leur faire péter un câble aussi au bout d'un moment.
À Paris, il y a une projection sur une crue centennale qui doit arriver, la Seine doit déborder, les services de l'État et de la ville s'y préparent plus ou moins, mais un certain nombre de personnes disent que le Louvre pourrait être largement inondé, faute d'avoir anticipé cette crue centennale.
Donc, allez, on va laisser le mot de la fin à Jean-Paul qui nous appelle au 32-16. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour. Oui, bonjour.
Bonjour. Vous êtes du côté de la Gironde, là. C'est un département qui est en rouge depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, 10 jours au moins, je crois, Jean-Paul. Racontez-nous ce qui se passe.
Eh bien, alors, on a eu un gros débordement de la Garonne. Alors, déjà, avec tempête, on a eu une coupure d'électricité pendant plusieurs jours. Donc, j'ai réussi, on a sauvé, chez nous, le congélateur avec un groupe électrogène, le contenu. Mais on n'avait pas de chauffage et pas d'électricité pendant plusieurs jours. Donc, on a été hébergé chez mes parents avec les enfants.
D'accord.
Et ensuite, on a pu rentrer. Et là, c'est l'eau. On n'a plus d'eau potable. En fait, la Garonne a débordé, a contaminé le réseau d'eau sur plusieurs communes aux alentours.
D'accord. Donc, il n'y a plus d'eau potable chez vous.
C'est ça. On ne peut plus boire l'eau. On ne peut plus laver les petits, se brosser les dents, cuisiner avec. Donc, on a des distributions de packs d'eau à la mairie, tous les jours.
Voilà. Et on vous dit quoi à la mairie ? Ils vont rétablir les choses rapidement ou pas ?
Ils ne savent pas trop. Mais pour le moment, la Garonne est toujours très haute, en fait. Il y a plusieurs ponts qui ont été coupés à cause de la montée de la Garonne. En fait, sur une bonne trentaine de kilomètres, il n'y avait plus qu'un seul pont disponible. En fait, tout le monde devait passer que par un seul pont. Là, un pont a réouvert qu'à partir d'hier, donc la Garonne est toujours très haute en fait. Hein. Puis là, bon, on a eu un peu peur avec la tempête Pedro. Cette nuit, il s'est rien trop passé. Enfin, ça a l'air d'aller. Ouais. Mais la Garonne remontait un peu en fait à cause de cette tempête et des marées, des forts coefficients de marée. C'est très long à redescendre.
Vous avez regardé les prévisions que dit la météo pour les prochains jours?
Ça va se calmer. Apparemment, ça devrait se calmer sur la pluie, mais c'est surtout l'histoire des marées qui fait que ça ralentit la baisse de la crue.
Oui, il y a de forts coefficients de marée, et donc il y a ce risque de crue, de vague submersion, comme on dit, de crue derrière. Jean-Paul, bon courage à vous.
Mais merci beaucoup.
Et puis merci d'écouter les GG, même les pieds dans l'eau et sans eau potable. Ça, c'est quand même c'est compliqué. Merci Jean-Paul d'avoir appelé au 32-16. Dans un instant, retour à la politique. On va revenir sur les conséquences de l'affaire de la mort de ce jeune homme, Quentin de Ranque, à Lyon. Donc, on parlait de Raphaël Arnaud qui était dans la tourmente. Mais plus largement, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon est dans une stratégie un peu jusqu'au boutiste. Il ne veut rien lâcher. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il est en train de se disqualifié pour la présidentielle? On va en parler avec les GG et avec vous, 32-16, à tout de suite. Toujours en direct de Marseille, toujours sur RMC, RMC Story et BFM Marseille, en direct du Palais de la Bourse. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Les grandes gueules à Marseille, à moins d'un mois du premier tour des municipales, en partenariat avec la Provence et en simultané sur BFM Marseille. Nous sommes en direct du Palais de la Bourse, magnifique endroit qui nous accueille, et on remercie toute l'équipe. Et puis on remercie aux Marseillais d'être venus si nombreux nous voir ce matin. D'ailleurs, vous Marseillais, vous aurez la parole dans une dizaine de minutes maintenant. Vous viendrez à la table des grandes gueules discuter avec les GG des thèmes d'actualité qu'on a abordés aujourd'hui, des municipales aussi, parce qu'il y a un enjeu important ici à Marseille. C'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec le RN qui est en train de percer et peut-être gagner la ville, même si pour l'instant, Benoît Payan tient bon, si l'on en croit le dernier sondage, le maire socialiste sortant. Je voudrais qu'on parle justement politique, des conséquences politiques de l'affaire de cette mort, celle de Quentin Derenque à Lyon. Alors, il y a une enquête. D'ailleurs, le procureur de Lyon va faire un nouveau point presse tout à l'heure vers 17h. Il y a 11 personnes gardées à vue. La plupart sont des proches de Raphaël Arnaud, celui qui a créé la Jeune Garde et qui est député LFI du Vaucluse et qui est pour l'instant très soutenu par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne change pas sa stratégie. Alors, est-ce qu'il a raison ou au contraire, il va être perdant et il met en jeu sa propre candidature à l'élection présidentielle? C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, pour l'instant, ne veut pas dévier de stratégie, puisqu'il continue de soutenir la Jeune Garde, de soutenir le député Raphaël Arnaud, qui n'a pas été exclu du groupe LFI à l'Assemblée nationale. C'est une stratégie jusqu'au boutiste, qui d'ailleurs embarrasse le reste de la gauche, on le voit bien. Alors il y a ceux comme François Hollande ou Raphaël Glucksmann qui disent « c'est terminé, on négociera plus avec les LFI ». Puis il y en a d'autres comme Olivier Faure ou Marine Tondelier qui sont plus ambigus. Est-ce que Mélenchon est en train de se disqualifier? On est à un an de la présidentielle. Est-ce qu'il fait une erreur? Qu'est-ce que tu en penses, Antoine Diaz?
Un Marseillais me rappelait qu'on est ici au cœur même de la circonscription d'élection de Jean-Luc Mélenchon. Il était député sur ce territoire,
c'est vrai.
Cette circonscription, et c'est l'actuelle circonscription d'Emmanuel Bompard. Donc on est au cœur de LFI pour en parler. Je pense qu'on a assisté ces dernières années à une radicalisation de Jean-Luc Mélenchon. Je le dis à dessein, je sais ce que ce mot peut impliquer. Jean-Luc Mélenchon, depuis le Parti Socialiste, s'est progressivement radicalisé jusqu'à accepter, tolérer et soutenir ceux qui commettaient de la violence politique au nom des idées défendues par LFI. Je le redis ici, la Jeune Garde est directement lié à LFI malgré les dénégations. Bah,
Jean-Luc Mélenchon l'a dit lui-même. Hein.
Voilà, il assume pleinement.
Lié et allié, c'est les termes qu'il a utilisés.
Exactement. Et donc, autant tous les autres groupes extrémistes ailleurs sont rejetés en dehors du champ politique par les responsables politiques, autant Jean-Luc Mélenchon a remis au cœur du jeu un groupe politique violent. C'est Jean-Luc Mélenchon qui remet la violence.
Oui, mais là, il pourrait bien couper les liens, mais il ne les coupe pas pour l'instant.
Alors, c'est ce que tu dis. Et donc, il remet la violence politique au cœur du jeu. Eh bien, pour cela, parce qu'il refuse de couper les liens, parce qu'il refuse de tout de suite s'excuser, de dire qu'il ne cautionne pas tout ça, pour cela, il est disqualifié. Et je pense vraiment que là, on assiste en ce moment même
tournant,
à la mort de LFI. Je crois vraiment qu'ils ont poussé loin la radicalité, mais là, ils sont tombés du mauvais côté.
Donc on assiste à une bascule, là.
Mais oui, parce que plus personne à gauche ne pourra s'allier avec LFI, et la gauche ne survit aujourd'hui dans une France où elle est minoritaire, elle ne survit que parce qu'elle est en mesure de s'allier sur des seconds tours. LFI a des députés que parce que la Macronie a fait un barrage républicain et qu'ils ont fait élire des députés LFI. Et donc aujourd'hui, oui,
enfin,
tout
ils
ça
ont aussi
tombe.
Un électorat propre.
Évidemment.
Mais ça marche dans les deux sens. Par exemple, il y a des socialistes qui ont été élus grâce à ces accords avec LFI.
Et tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, ça ne sera plus possible pour les modérés de travailler avec LFI.
Est-ce que c'est une erreur fatale qui fait Jean-Luc Mélenchon? Non, parce qu'il va se couper de ses alliés de gauche?
Non, c'est pas une erreur. Je pense que M. Mélenchon a très bien compris qu'il ne serait jamais élu président de la République.
Mais bien avant ce qu'il vise.
Mais bien avant cette histoire-là, non. En fait, quand on regarde... Alors oui, il y a une forme de radicalisation, mais en fait, il sait qu'il n'est audible que par une toute petite partie. Et donc, en fait, il va parler le plus fort et le plus longtemps possible à cette petite partie qui lui permet quoi? De continuer d'avoir son siège. Monsieur Mélenchon...
Ah, mais il n'est plus élu. Il n'est plus élu. Ça lui permet peut-être d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale.
Il a un beau siège dans ses bureaux.
Ce que je veux dire, c'est d'avoir sa rémunération en tant que président de parti. Enfin, non, même pas. C'est Mme Panot.
Non, il n'est même plus président de parti.
C'est Mme Panot, maintenant.
Il est à la retraite, officiellement, Jean.
Oui, ce serait bien qu'il s'y mette tout court, là. Mais...
Non mais je comprends pas sa stratégie. Si sa stratégie c'est d'être président de la République,
non,
puisqu'il veut être
plus.
Il veut être sans doute candidat pour la quatrième fois. Non. Je vois pas pourquoi il ne dit pas tout de suite effectivement on s'est trompé, Raphaël Arnaud, on va le mettre de côté, on va laisser la justice faire, mais on peut plus avoir Raphaël. Ça serait pas compliqué.
Non,
de
il
dire.
Veut continuer d'être un détracteur. Oui, mais il veut continuer.
Je ne vois pas si tu veux être président de la République,
mais il ne
président
veut pas.
De tous les Français. Tu veux pas soutenir ça?
Non, il peut.
Je pense qu'il le veut, et d'ailleurs il a été motivé par la dernière réélection de Lula, qui malgré un certain âge et malgré être passé par la case prison est est revenu président de la République et ça a été une source de motivation pour lui. Par contre, son erreur, c'est quoi ? Il se comporte comme s'il était candidat à la présidence d'un conseil départemental ou régional. C'est-à-dire, je le répète tout le temps, quand on veut être président de la République française, il faut s'adresser à tous les Français, aussi bien ceux qui vous apprécient que ceux qui vous détestent. Et aujourd'hui, il ne parle qu'à sa base électorale pour dire tenons bon face à la tempête.
Oui, mais cette base ne sera pas. Le fait pas élire président.
Et cette base va s'effriter. Et par rapport à l'hypocrisie de la gauche, on sait très bien que si demain il y a un second tour Mélenchon-Le Pen, le Parti socialiste, le Parti communiste, les écolos, pardon, vont voter Jean-Luc Mélenchon. Donc tout ça, c'est encore de la façade d'une hypocrisie.
C'est-à-dire que, par exemple, aux prochaines législatives, tu penses qu'il y aura quand même des accords entre le PS et LFI.
Mais le PS sans LFI, est en voie de disparition électoralement.
Sauf même si le PS reprend la main.
Au niveau des villes.
Sauf si le PS reprend la main.
Moi, je dis toujours que leur faux semblant là de lumière qu'ils ont, on a dit le Parti socialiste dirige la nation au travers de Sébastien Lecornu, vous verrez qu'ils seront les gros cocus de l'histoire à la fin. Vous verrez. Mais Jean-Luc Mélenchon doit faire attention et ouvrir, en fait, sa communication. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont peur des LFI. Est-ce qu'on va les insulter? Non, il doit s'adresser à ces personnes. Il y a des gens qui sont dans l'abstention. L'abstention reste le premier parti de France. Eh ben, il faut aller piocher là-bas. LFI a perdu une partie de l'électorat ouvrier. Comment est-ce qu'ils vont faire pour aller les récupérer? Il faut parler à ces gens. Parce que cette base électorale qui, en plus, est en phase est en train de s'effriter aussi un petit peu. Faut pas croire.
C'est donc incompréhensible de continuer à vouloir coûte que coûte défendre radicalisation.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rationalité.
Oui, il n'y a plus de rationalité.
Il veut pas être.
Et le score de Delogu à Marseille sera un indicatif très intéressant. Attention, ça sera intéressant à remarquer.
Amélie est avec nous au 32-16. Elle nous appelle de Normandie, Rouen, Seine-Maritime. Bonjour Amélie.
Bonjour les GG.
Vous vous présentez comme une militante de gauche depuis très longtemps, depuis 30 ans, c'est ça?
Ouais, depuis plus de 30 ans.
Vous avez commencé jeune.
Ben oui, je pense que chez nous, on est né avec la carte du PS dans le berceau. Et donc, à un moment donné, j'ai été tentée, moi. Alors moi, je vis dans la commune de Nicolas Meyer-Rossignol, qui, je tiens à le dire aujourd'hui, ne fait pas alliance avec LFI, le maire de Rouen. Bon, d'ailleurs, voilà, je suis pas du tout au PS de Rouen. Pour autant, j'ai quitté le PS, moi, il y a 10 ans. Et j'aurais été tentée, à un moment donné, de rejoindre LFI il y a 10 ans.
Et puis maintenant j'aurais...
Non, alors déjà il y a 10 ans, j'ai trouvé que ça manquait de structure et pour moi c'était finalement pas envisageable, et encore moins aujourd'hui. Et j'irai même plus loin, et c'est ce que je disais à Alexandre, c'est que j'en veux moi à Mélenchon et LFI d'une manière générale. Alors si je sors des items pour lesquels on pourrait avoir plein de reproches à faire au LFI, moi je comprends pas la posture d'aujourd'hui. Alors je tiendrai juste à dire quelque chose. Je veux qu'on sorte quand même, et merci les médias de le faire aussi. La mort de ce jeune Quentin, c'est terrible, mais faut pas non plus nous faire croire que le Rassemblement National c'est des anges et qu'ils sont pas dans la violence. Donc il faut sortir de ce schéma-là. Pour autant, je ne comprends pas la posture de Mélenchon. Et je lui en veux, parce que demain, s'il y avait un deuxième tour LFI, enfin en tout cas Mélenchon et Bardella, ben je pense que je voterais blanc. Je peux pas, en mon âme et conscience, aller voter pour un type comme Mélenchon. C'est juste pas possible. Donc je serais bien embêtée, et je lui en veux, parce que il fout en l'air l'union de la gauche, il fout en l'air l'image des gens de gauche, il fout en l'air potentiellement ce qu'on aurait pu faire dans une dynamique de gauche. Et il nous amène à faire un choix. Il nous a amené à faire un choix quand il fallait être ou pro-palestinien ou pro-otage. Il nous a amené à faire des choix qu'on n'a pas envie de faire. Déjà à cette époque-là, je lui en voulais, et je lui en veux encore plus aujourd'hui, parce que je comprends pas qu'il sorte pas de cette posture. Je comprends pas qu'il, même si effectivement, faut arrêter de nous faire croire que le Rassemblement National, ce sont des petits anges et qu'ils ne fonctionnent pas dans la violence.
Le problème, Amélie, on peut pas se comporter comme ceux qu'on dénonce. C'est là où c'est incompréhensible.
C'est-à-dire
qu'on peut pas à la fois dénoncer la violence de l'extrême droite ou des groupuscules d'ultra-droite en employant finalement les mêmes méthodes.
Amélie a raison. Pardon. C'est que la gauche a été tuée. Mais a été tué et massacré par LFI. C'est mon sentiment. Je dis pas que c'est une réalité. C'est mon sentiment. Je trouve que LFI a tué la gauche et les électeurs de gauche, et que maintenant, j'en parlais tout à l'heure avec une auditrice, le panel politique est effarant. Enfin, je veux dire, un électeur. Moi, je suis une électrice de droite, libérale. Je pense que je suis comme Amélie. Demain, j'ai un duel Mélenchon RN, je pense que je vote blanc.
D'accord, mais enfin, pardon. Oui.
Non, mais ça, ça veut dire que quelqu'un de gauche classique,
D'accord, mais enfin, Amélie, pardon, puisque vous étiez plutôt proche du Parti Socialiste, Amélie, je veux dire, le Parti Socialiste, c'est un peu autodétruit tout seul. Et Jean-Luc Mélenchon a profité de l'espace pour exister. Pardon, si Emmanuel Macron a réussi à être élu, c'est parce que le PS, je vous rappelle quand même les scores d'Anne Hidalgo, voilà. Donc, il y a aussi une responsabilité du PS dans la montée de Mélenchon, dans le sens où le PS n'arrivait plus à parler aussi à certains électeurs de gauche.
Je pense que le Parti Socialiste, à un moment donné, ne s'est pas posé les bonnes questions. On peut remercier Hollande d'avoir fait en sorte que le Parti Socialiste, aujourd'hui, est ce qu'il est. Et je tiens à dire que...
Il veut revenir, vous avez vu ?
Ah oui, non.
Je tiens à dire que si effectivement il y a 10 ans j'ai rendu ma carte du Parti Socialiste, c'est parce qu'on a nommé un Manuel Valls Premier ministre. Bon, ceci étant, même si le Parti Socialiste doit faire son introspection, et s'il y a eu une porte qui s'est ouverte pour Mélenchon, il n'en reste pas moins que le Parti Socialiste aujourd'hui, je pense, essaye de se reconstruire. Et on ne pourra pas le faire en travaillant main dans la main avec les LFI. De toute façon, Mélenchon n'a aucune envie de travailler avec qui que ce soit. Il bosse pour sa poire. Je trouve qu'il est délétère. De toute façon, d'une manière générale, les LFI, je les trouve en colère tout le temps. Je me fais tout le temps cette réflexion de se dire, mais comment c'est possible d'avoir un débat
vous
avec eux
quand
à un moment
ils sont toujours en colère.
Ouais, ils sont toujours en colère. Lui, je trouve qu'il est dangereux pour la gauche. Ce serait quelqu'un de dangereux pour moi, pour le pays. Et donc, souvent, je me dis, face à un type de droite, je vais même vous dire, face à un type de droite. Alors pourtant, Dieu sait que le maire du Havre, je suis parfaitement en désaccord avec lui. Je m'interroge si demain il y avait un deuxième tour entre lui et le RN, je pense que je serais capable d'aller voter pour ce type-là, pour le maire du Havre. Parce que je me dis que demain, si j'étais pas satisfait de lui, je serais en capacité d'aller encore manifester dans la rue.
D'accord.
Merci Amélie. Philippe est relancé.
Merci Amélie, on va s'arrêter là, mais on a bien compris votre déception, vous, la militante de gauche depuis toujours, face aux excès de Jean-Luc Mélenchon. On a posé la question sur le compte X des Grandes Gueules. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, avec cette affaire, est disqualifié pour 2027? Et vous dites oui à 82%. Dans un instant, ce sont les Marseillais qui vont prendre la parole. Yes. On va vous entendre, vous qui êtes venus nous voir. Vous serez à la table des Grandes Gueules, à tout de suite en direct du Palais de la Bourse à Marseille.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
De Marseille, ça nous fait du bien, nous qui subissons la pluie depuis des jours et des jours. On est content d'être là, les Grandes Gueules, avec vous à Marseille, dans ce magnifique palais de la Bourse, à l'occasion des municipales. On est à moins d'un mois des municipales et on a voulu venir ici à Marseille parce que l'enjeu est énorme, en partenariat avec la Provence et en simultané sur BFM Marseille. Maintenant, ce sont les Marseillais qui ont la parole, avec Abel Boyi, avec Laura Varto-Martinez et Antoine Diers. Et nous accueillons tout de suite Yasser. Bonjour Yasser.
Bonjour.
Yasser,
bonjour.
Manager dans l'événementiel, vous vouliez revenir sur les enjeux justement des municipales ici à Marseille.
Oui, parce que je trouve qu'on parle de qui depuis tout à l'heure, toujours d'ailleurs. On a le quatuor là.
Oui, on parlait des quatre principaux.
Alizio, donc si on les prend dans l'ordre, donc Alizio, Vassal, Payan,
voilà, Franck Alizio, Martine Vassal et Sébastien Delogu. Ça serait l'ordre d'arrivée du premier tour pour l'instant.
Ça, c'est le qui. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est. Pourquoi
faire ?
Qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait ? Voilà. Tu veux être maire, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Donc il y a Alizio, il veut être maire, on ne sait pas trop où il veut amener la ville. On peut l'imaginer, mais il faudrait qu'il soit...
C'est le candidat RN ?
Oui, d'accord, mais... Oui, mais il n'y a pas que la sécurité déjà. Marseille, c'est une ville immense. On est 1 million d'habitants. On a 2600 ans d'histoire. Et le gars, il va te dire sécurité. C'est comme Payan, moi ça m'a fait rire hier, il déclare, si je suis de nouveau maire, ben, le tunnel par deux carénages, il est à 1 euro. C'est ça l'ambition pour Marseille, c'est d'avoir un tunnel à 1 euro. Le gars, il est maire depuis 5 ans, et sa seule ambition pour être maire, c'est de dire, je vais mettre le péage à 1 euro.
Vous attendez quoi, vous, alors, en fait ?
On arrête de nous prendre pour des imbéciles.
Oui. Voilà. Mais vous voulez qu'on parle de Marseille ?
Votre ami Corse, chauffeur de taxi, il a raison. On nous prend pour des cons depuis le début.
Oui, mais vous vouliez quoi ? Qu'on parle de Marseille, de se projeter dans l'avenir ? À quoi va ressembler Marseille dans 10 ans, dans 20 ans ?
Alors, déjà, il y a ça. Et puis, il y a les enjeux économiques, il y a les enjeux à l'international. Marseille, c'est une ville qui est ouverte sur la Méditerranée.
Il y a la jeunesse marseillaise aussi.
Il y a la jeunesse marseillaise, exactement. Sujet, ouais. Il y a la vieillesse marseillaise, il y a les seniors, etc. On en parle Alors on en parle bien sûr au moment des élections, parce que là on rase gratis. Hein. Mais concrètement, c'est quoi le projet de Martine Vassal? Tiens. C'est quoi son projet? C'est quoi le projet de Banapaillon? Bon, c'est 1 euro le tunnel, on a compris. C'est quoi le projet de...
Non, mais Sébastien Delogu.
Alors, Delogu, peut-être l'alphabétisation des députés, je sais pas. Non, mais il y a aucun enjeu. Je suis désolé, moi je rigole parce que je préfère en rire, parce que voilà. Moi, c'est simple, je suis né à 100 mètres il y a 45 ans. Donc j'ai vu défiler Defferre, Vigourou, Gaudin. Maintenant, Payan, le prochain, je pense que ce sera encore Payan. Parce qu'il va s'arranger avec Delogu, etc. Ils vont faire un report de voix. Vassal va vraisemblablement pas s'arranger avec Alizio. Donc, allez, on se fait une clause de revoyure après les élections.
Vous mettez une petite pièce sur Payan.
Je mets une petite pièce pour Payan. Pas parce que je l'aime. Moi, je vote blanc depuis une vingtaine d'années.
Mais vous dites, il faut parler du fond. Ben, vous voyez, je vais vous renvoyer. Il y a un débat ce soir, ici même. BFM TV organise le premier grand débat des municipales à Marseille. Il y aura les 4 candidats. C'est animé par Apolline de Malherbe et Olivier Biscay de la Provence. Et effectivement, je pense qu'ils iront, j'espère, sur les sujets de fond pour interroger ces candidats, pas uniquement sur des questions d'alliance, mais aussi sur qu'est-ce qu'on fait d'une ville, quoi, comme Marseille.
Ouais, qu'est-ce qu'on fait d'une ville comme Marseille, c'est ça le sujet.
Merci Yasser d'être venu à la table des grandes gueules.
Merci.
On va laisser la place à Pascal. Oui, on l'applaudit Yasser. Bravo Yasser. Pascal qui nous rejoint. Pascal est un ancien policier. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Marseillais
bien
sûr.
Non, Lorrain au départ.
Comment, vous n'étiez pas Marseillais au départ?
Au départ, Lorrain.
Lorrain, et vous avez débarqué à Marseille il y a combien de temps?
79.
Oula, bah ça y est, maintenant Marseillais.
Donc 80 dans la police nationale.
Oui.
Et j'ai attaqué à la rue Nationale, qui était juste à côté, pour m'occuper de Balzac, notamment, en tant qu'ilotier, en étant civil.
D'accord. Et on parlait de la sécurité à Marseille tout à l'heure.
Alors je disais, sécurité, vous pouvez mettre des caméras, des policiers partout, municipaux ou nationaux. Moi, j'ai toujours dit que l'important, c'était la suite d'une interpellation. Et par rapport à la justice, il m'est arrivé d'interpeller plusieurs fois dans la semaine le même individu. Parce que vous avez le centre-bourse à côté avec le garage à autoradio à l'époque et les autoradios qui partaient vite fait, quoi. Donc, tout simplement parce qu'il y avait la drogue juste à côté et il fallait un autoradio pour acheter une dose, quoi.
À l'époque, c'était l'héroïne, oui. C'est-à-dire que quand vous arrêtez, c'est combien de fois vous arrêtez?
J'ai arrêté, mon record, c'est 14 fois.
14 fois la même personne?
Ouais, dans la même semaine.
La même semaine?
Ouais, matin et soir.
Ah bon, jamais
au matin à partir de midi, parce qu'il
c'est tard. Et il se passait rien.
Et moi, je remettais ça à l'époque à l'inspecteur. Et après, je le revoyais dehors.
Et qu'il refaisait la même chose?
Il refaisait la même chose. Alors, soit on le prenait en flagrant délit dans la voiture, ou soit on le prenait à côté, il ouvrait le blouson, et puis il y avait les autoradios.
Donc, il n'avait pas peur de vous, en fait? Parce qu'il
pas du tout, non. Parce que, bon, après, c'était un drogué.
Et ça a changé ça, à votre avis, ou c'est toujours pareil?
Je pense que c'est toujours pareil. Hein. Je pense que les rappels à la loi, ça a changé de nom, mais...
Sauf qu'à la place des autoradios, il y a des choses plus dangereuses.
Vous savez que...
Oui, c'est sûr.
Quand on fait le palmarès des voitures les plus volées en France, c'est les Bouches-du-Rhône, hein, où
c'est
il y a plus de vols de voitures.
C'est
ce département-là.
J'ai mis une canne tout à l'heure.
Pourtant, ah oui.
Pourtant j'ai. Bon, voilà, tout simplement.
Ouais. Antoine, on a une part d'insécurité et de délinquance liée à l'immigration, et notamment l'immigration clandestine ici. Donc il y a la justice, et il y a un certain nombre de clandestins présents à Marseille qui devraient être expulsés pour régler une partie de l'insécurité.
Tout le trafic de drogue.
Ça, c'est un choix politique.
Exactement. C'est compliqué d'être policier à Marseille?
Non, parce que moi, j'ai adoré mon métier. Hein. Je veux dire, c'est bien parce que j'étais en flagrant. J'ai fait beaucoup de flagrants délits, donc c'était une chasse, quoi. Mais bon, encore une fois, les choix politiques qui sont difficiles à comprendre, quoi.
Il y a une excellente série que je vous conseille qui passe en ce moment sur Netflix d'Olivier Marchal, qui s'appelle Pax Massilia, qui se passe à Marseille.
Ouais,
c'est la saison 2 ou 3, je ne sais plus.
Ouais, c'est.
Et vous l'avez vu? Est-ce que ça ressemble à ça?
Ben oui, c'est comme le film Bac Nord, quoi. Je veux dire, c'est pareil.
Bac Nord, pareil, qui se passait à Marseille.
Voilà. Olivier Marchal, c'est un ancien de la maison, j'ai mangé avec lui. Et donc, oui, c'est quelqu'un qui honore la police, même s'il avait fait quelques trucs en dehors de la ligne, comme on dit, mais qui moi, j'en ai fait aussi, parce que voilà, quoi.
Merci d'être venu à la table des grandes gueules.
Et courage à tous les policiers de Marseille.
Et bien sûr, on salue tous les policiers de Marseille. Ils sont beaucoup à nous écouter. Ouais. Et puis, on va donner la parole, au mot de la fin, en quelque sorte, parce que le temps tourne. C'est Benjamin qui nous rejoint. Bonjour, Benjamin.
Bonjour, Benjamin.
Merci de nous recevoir. Benjamin, vous êtes coordinateur pour une ONG. Et vouliez revenir sur les municipales et les enjeux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Benjamin?
Moi, j'ai un vrai coup de gueule. J'ai un vrai coup de gueule pour ma génération. Aujourd'hui, on a une génération.
Vous avez quel âge?
J'ai 31 ans. D'accord. Je suis père de famille, je suis marié. Et en fait, je vois que ma génération vote de plus en plus pour les extrêmes. Et en fait, ça me fatigue. Ça me fatigue d'entendre toute la journée parler des mêmes sujets. En plus, à Marseille, on parle de la propreté, de la sécurité, mais on ne parle pas du reste, finalement, des vraies blessures de cette ville. On a plein de choses. On a un littoral qui est gigantesque. On n'a pas de plage. On parle d'espace vert. On n'en a pas non plus. On parle de piscine. Ici, on n'en a pas. On n'arrive pas aujourd'hui à mettre un euro sur nos piscines. On a des collégiens. Un tiers de nos collégiens ne savent pas nager à Marseille.
Ah bon ?
Ouais. Alors qu'on a la mer.
Alors que y a la mer juste là.
Et donc, finalement, on se retrouve avec un débat politique ici, qui est même presque un débat médiatique, parce qu'on se retrouve avec un Sébastien Delogu qui ramène de la violence. Toutes les semaines, il est entendu par la gendarmerie. On entend absolument toujours de la complaisance, du clientélisme, etc. Enfin, vraiment, on ramène une politique caniveau ici, à Marseille. Et de l'autre côté, on a le RN, bon, qui surfe sur un élan sûrement national. Mais on a une politique où on ne sait même pas ce que fait Franck Alizio pour Marseille. On parle de sécurité. Alors, il est très fort sur les réseaux sociaux, ça, je dois lui avouer. Il fait une très bonne communication, sûrement celui qui a le plus de likes, de commentaires, etc. Mais c'est toujours du choc. On va devant un endroit qui est tagué, on va le nettoyer, on va
Vous avez l'impression que votre génération, cette jeune génération, elle n'est pas vraiment au cœur des préoccupations des candidats ?
Mais j'ai l'impression juste qu'ils se font avoir par une communication, qui est une communication de réseaux sociaux, où on va leur parler un peu de sécurité, un peu de propreté, et ça suffit.
Ouais.
Et finalement,
on rentre pas dans le fond des choses.
Je l'ai évoqué tout à l'heure, le plan Marseille en grand, moi ça me fascine. C'est-à-dire que c'est la seule ville en France qui a bénéficié d'un plan de ce type-là, 5 milliards d'euros. S'il avait fallu faire des piscines, des parcs, si c'est ce dont la population a besoin, je comprends même pas que ce soit pas encore engagé. L'argent est là. Il y a eu une volonté, un soutien présidentiel.
L'argent a été annoncé, est-ce qu'il est là ?
Si t'as pas de projet, en fait, je crois que la vraie difficulté, c'est il n'y a pas de projet. Il aurait annoncé un grand plan piscine, Benoît Payan. Je suis sûr que le président de la République, il disait, on met les sous, on l'a pris. Il aurait annoncé un grand plan parc dans la ville, on met les sous. Mm-hmm. Il aurait annoncé un plan création d'une plage à Marseille. Je suis persuadé que le président de la République mettait les sous.
Donc, on est à 3 semaines du premier tour. Vous dites aux candidats, maintenant, il faut aller sur d'autres sujets, pas toujours les mêmes,
bien
pas
sûr.
Les sujets faciles.
Et
quoi.
En plus de ça, on a de la chance. On a quand même deux candidats, Payan et Vassal, qui ont de l'expérience ici. On a
l'un est maire et l'autre présidente de la métropole.
On a de la mairie, donc finalement, on a quand même des sujets d'expérience.
Merci à vous, Benjamin. Merci à tous les Marseillais. Merci d'être venus nous voir. Merci au Palais de la Bourse. Je voudrais remercier rapidement, avant de laisser la main à Estelle Midi, à Estelle Denis, remercier ceux qui ont aidé à la préparation et la réalisation de cette émission. Luc Panier, Patrick Delay. Vous pouvez effectivement les saluer. Catherine Gestin, Dimitri Rossi, Thibaut de Villartet, Louis Gerbier, Pierre pour les vidéos. Et puis bien sûr, l'irremplaçable Anaïs Inès Sens. Merci au GG. Prochaine étape. Nous partons au Salon de l'Agriculture lundi et nous serons à Lyon mardi pour notre prochaine étape. Et je remercie bien sûr Anne-Laure, notre chef d'aide, qui est restée à Paris avec la pluie. Allez, bonne journée à tous.